Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Chantal Leroux.
Bienvenue si vous nous rejoignez pour la seconde partie d'Appel sur l'actualité. Vous le savez, hein, chaque vendredi, RFI vous donne la parole, c'est la libre antenne. Et cette semaine, vous avez choisi de réagir à la contestation au Nigeria, de commenter la présidentielle en Guinée, le siège du village de Farabougou au Mali, les tensions en RDC entre le président Tshisekedi et le camp Kabila ou encore la polémique en Côte d'Ivoire autour du scrutin du 31 octobre. Vous pouvez encore nous contacter sur WhatsApp au 33 6 89 28. 53 64. Mais on va d'abord commencer par un hommage à un homme qui a payé de sa vie le fait d'avoir exercé son métier d'enseignant et d'avoir expliqué à ses élèves ce qu'est la liberté d'expression en leur montrant deux caricatures de Mahomet. Youba, bonjour.
Bonjour Chantal.
Vous nous appelez de Bamako au Mali et vous avez été très touché par la mort de Samuel Paty, donc ce professeur d'histoire de Conflans-Sainte-Honorine, décapité dans la rue il y a tout juste une semaine par un jeune réfugié d'origine tchétchène.
Oui Chantal, ce que je voudrais dire, permettez-moi d'abord de présenter mes condoléances les plus attristées à la famille de mon collègue. Ce que je veux dire, c'est que ce phénomène, il ne concerne pas que la France, il est mondial. Au Mali, ici, nous avons perdu beaucoup d'enseignants, d'instituteurs, de directeurs d'école qui ont tout le temps été et qui continuent d'être enlevés et tués. Et pourtant, ils sont musulmans. C'est pour dire que le destin de ces gens-là, ce n'est pas l'islam. Moi, je suis musulman. Mais notre prophète lui-même, il a tout le temps été raillé et moqué toute sa vie. Il n'a jamais ôté la vie, ni n'avoir fait ôter la vie pour des opinions. Le monde n'a jamais été unifié sur les opinions. Ce qu'il craint, ces gens-là, c'est l'enseignement, justement. C'est l'éclairage des esprits. Et au Mali, nous le vivons quotidiennement. Et c'est pour dire tout simplement à mes collègues qui sont enseignants au Mali, qu'ils soient français ou maliens, qu'ils soient de n'importe quelle nationalité, qu'il ne faut surtout pas arrêter d'enseigner. Parce que si nous arrêtons d'enseigner, nous aurons abandonné nos enfants à l'obscurantisme.
Et la liberté d'expression, il faut continuer à l'enseigner, malgré les menaces, malgré les pressions.
Il faut continuer à enseigner la liberté d'expression et la liberté de penser pour outiller nos enfants contre justement tous les négationnistes, contre tous les porteurs de vision unitaire qui ne peut pas passer. Parce que si on arrête d'enseigner, je vous le dis, c'est la victoire de l'obscurité sur la lumière.
Ce serait donner raison aux djihadistes, ce serait abdiquer.
Ce serait plier les chines devant ceux qui prennent sous le prétexte de l'islam. Et je vous dis, l'islam n'a jamais dit de tuer qui que ce soit. Moi, je suis musulman, je suis choqué. Je vous le dis, je suis choqué par les caricatures. Et c'est pas pour cela que je vais aller tuer quelqu'un. Non, ma religion ne le recommande pas. Ma religion est une religion de lumière, de liberté d'expression et de liberté de penser. Voilà.
Merci beaucoup Youba pour ce témoignage très fort que vous nous délivrez. Je rappelle que vous nous appelez de Bamako. C'est aujourd'hui en principe que doivent être annoncés en Guinée les résultats définitifs du premier tour de la présidentielle. Dans un climat délétère, les affrontements entre partisans de l'opposition et partisans du chef de l'État Alpha Condé ont fait entre 10 et 30 morts selon les sources. L'armée a été réquisitionnée pour maintenir l'ordre. Joseph, bonjour.
Bonjour madame.
Vous nous appelez de Conakry. Quelle est la situation ce matin dans la capitale où vous vous trouvez?
La situation est morose. La peur est dans tous les visages. Et malheureusement, nous avions pensé que la démocratie était un jeu de fair play politique, mais la démocratie a trouvé sa tombe en République de Guinée. par la volonté manifeste de certaines personnes qui veulent forcément imposer une dictature en République de Guinée. Et ce qui amène maintenant les uns et les autres à avoir beaucoup plus peur, c'est qu'on a réussi à faire passer ici des idées du genre qu'il y a une communauté qui n'a pas droit au pouvoir en République de Guinée, et particulièrement la communauté Peul, qu'on qualifie ici de djihadistes, qu'on qualifie ici de terroristes, au point qu'ils n'ont pas droit aujourd'hui au commandement suprême. Cela fait que toutes les communautés qui sont aujourd'hui aux affaires se sont coalisées contre cette communauté et on a installé ici un système de ratissage pour pouvoir les amener carrément à un silence. Et ça fait que finalement, même les voisins dans les quartiers se méfient les uns les autres. Hier nuit, j'étais en face de ma télévision quand un ami m'a appelé pour me dire qu'il est menacé d'expulsion parce que simplement il se trouve dans une zone où il est beaucoup plus le seul dans la communauté par rapport au voisinage qu'il y a. Et ça fait peur. Mais au-delà de tout ça, on a militarisé la ville. Si on veut dire la vérité, pourquoi militariser la ville? Je pense qu'il fallait plutôt laisser le peuple s'affirmer comme elle a fait le 18 au soir, jusqu'au soir. Les élections se sont passées au calme, dans la sérénité. Tout le monde a exprimé sa voix. Que la CENI puisse transcrire effectivement ce qui est sorti dans les bureaux de vote. Mais la volonté de modifier tout au bénéfice de quelqu'un va nous amener à un chaos. Et le danger de l'autre côté, c'est le silence coupable de la communauté internationale, des autorités morales, religieuses et civiles, qui aujourd'hui regardent les choses et laissent faire sous prétexte qu'il faut laisser la CENI tout dire. Mais si nous laissons la CENI tout dire, et qu'on met en danger la vie et la paix sociale, je pense que ce n'est pas du tout une raison de pouvoir dire qu'on va défendre la paix. On est en train aujourd'hui de mettre le tissu social en lambeaux. Et nous allons tout droit à l'implosion sociale si jamais ce qui est engagé va jusqu'au bout. Parce que rien n'est fait pour que la paix soit maintenue en République de Guinée aujourd'hui.
Joseph, on va prendre un de vos compatriotes au téléphone. Alaoudine, bonjour.
Bonjour madame, je commence par dire honnêtement mon cœur saigne aujourd'hui. Et égard à toutes ces victimes que nous enregistrons, je profite de l'occasion pour présenter mes condoléances à toutes les familles endeuillées. Mais par contre, mon confrère continue à attiser le feu en pensant que c'est la meilleure façon de défendre son camp. On n'a plus de camp à défendre. En ce moment, dans le pays, nous devons plutôt défendre la République de Guinée. Aujourd'hui, ce qu'il faut dénoncer, c'est le comportement des uns et des autres, que ce soit de la mouvance ou de l'opposition, le comportement des radicaux qui veulent à tout prix en découdre avec leurs adversaires. Je pense que c'est une erreur grave. Je profite de l'occasion pour dire à l'ensemble des jeunes de Guinée qui m'écoutent, de ne pas tomber dans cette pièce qu'on est en train de nous tendre. Parce que ceux qui sont en train aujourd'hui, que ce soit Sidia, Selou ou Alpha, sont en train de faire pour qu'il y ait des crises. Moi, à mon humble avis, ils ont fait leur temps. Ils nous ont légué, ils doivent nous léguer aujourd'hui un pays en paix. Et quant à nous aussi, nous avons un devoir de léguer à nos enfants un pays en paix. J'ai tombé de nuit quand j'ai entendu mon confrère parler d'une communauté Peul. Il faut qu'on arrête de stigmatiser cette communauté dont je relève. Il faut qu'il arrête de nous utiliser comme une marchandise ou comme une couverture. C'est révoltant. Ce qu'il est en train de dire là, il ne sait pas, c'est très grave. Il nous expose en faisant semblant de nous défendre. Il faut que les gens arrêtent. Nous avons le sens de réfléchir et d'analyser les choses. Nous n'allons pas accepter que les pyromanes nous utilisent en couverture. Il n'y a pas une ethnie qui est visée. Dans la mesure où dans l'IFDD, le deuxième vice-président, le premier vice-président est de la communauté Malinké, qui est la même communauté que le président de la République. Si nous prenons le bureau de l'exécutif, il y a combien de Malinké là-dedans? Il y a Aliou Kondé, le secrétaire national de la jeunesse, Bakary Keïta, ils sont tous de la communauté Malinké. Il faut que les gens arrêtent. Mon confrère doit savoir, il n'y a qu'une seule institution qui a le droit de proclamer les résultats. Si chaque candidat se permet à proclamer des résultats, nous n'allons pas nous en sortir. Il y a des institutions, il y a
de loi de la République qui prévoit que la CENI organise les élections et proclame les résultats provisoires. Pourquoi les gens s'agitent pour pouvoir dire que nous on a gagné ou nous on n'a pas gagné? Il faut que les gens arrêtent un peu. La situation est suffisamment grave pour en ajouter autre argument pour justifier une défaite ou une victoire. Il faut que les gens s'arrêtent. Je demande à la communauté internationale de dénoncer la déclaration hâtive ou l'autoproclamation de celle d'Alain Diallo, parce que c'est ce qui a occasionné. Les élections se sont passées de façon libre, crédible et transparente dans la paix et la quiétude sociale. Mais à partir de cette déclaration, nous avons enregistré ces violences. Je suis quelqu'un qui habite à Koloma, mais je sais ce que nous sommes en train de subir. Il faut que les gens arrêtent un peu. Ils le disent parce qu'il n'est pas sur l'axe. S'il était là, il allait savoir que la situation est aussi grave pour pouvoir appeler à la paix et à l'unité nationale.
Merci. Non. Merci beaucoup, Alaoudine, de vous être exprimé sur l'antenne de RFI. Et merci également à Joseph. Direction le Mali à présent. Abderrahmane, bonjour.
Bonjour, Chantal.
Vous êtes en ligne de Bamako et vous avez du mal à comprendre comment le village de Farabougou, dans la région de Ségou, peut être assiégé depuis 2 semaines par des hommes armés présumés djihadistes.
Tout à fait, Chantal. C'est choquant et révoltant et humiliant à la fois pour nos autorités maliennes, pour la communauté internationale et toutes les forces armées qui sont dans la République du Mali. Franchement, je n'arrive même pas à comprendre, à me l'expliquer, que Farabougou, qui est situé à 15 minutes de Diabali, où nous avons une base militaire, et qu'on puisse aller encercler pendant 2 semaines des paisibles citoyens et qu'aucune force ne puisse aller intervenir. Donc j'en veux un peu à nos autorités maliennes, à cette transition qui, pour moi, a été un espoir pour nous par rapport à la gestion de la situation sécuritaire. Mais malheureusement, je me rends compte qu'on est en train de refaire les mêmes erreurs que le régime précédent.
Alors le vice-président malien Assimi Goïta est aujourd'hui dans la région de Ségou. Qu'est-ce que vous attendez de lui?
Bon, c'est un début d'espoir. C'est un jeune militaire, c'est un colonel et pourtant nous avons beaucoup de généraux, plus d'une centaine dans l'armée malienne. Donc pour moi, je ne veux pas mettre la charge de toute cette responsabilité sur son seul dos. Par contre, je pense qu'il y a une hiérarchie militaire et donc il faudrait que des sanctions tombent. Pour moi, ce n'est pas dans son rôle d'aller sur le terrain. Je suis content aujourd'hui qu'il est parti à Ségou. Ça montre un signal fort. Mais il faut que la hiérarchie militaire et des forces de sécurité de la région tombent. Pour moi, c'est irresponsable qu'on puisse se faire de tels trucs à ce goût et qu'on a une hiérarchie militaire, on a des chefs de la sécurité, du renseignement militaire, de tout ce que vous voulez, qui restent en place. Pour moi, tous ces gens-là doivent être démis de leurs fonctions dès aujourd'hui.
Peut-être que la situation sur le terrain était délicate avec ce village assiégé, la population à l'intérieur prise au piège. Et des négociations aussi sont en cours entre des personnalités du village et les djihadistes présumés. Peut-être que les autorités sur place n'ont pas voulu aussi mettre en danger ces négociations.
Mais je ne pense pas. Les négociations, pour moi, dès l'instant qu'une communauté se permet de prendre les armes et aller encercler une autre communauté, ou je ne sais pas, une population, en fait, pour moi, ça veut dire que les lignes n'existent plus. C'est-à-dire que ces liens sociaux, ces rapports sociaux, ces relations traditionnelles qui existaient, ça veut dire qu'on faillit. Et donc, pour moi, dès ce moment, l'État doit affirmer son autorité. On ne doit pas permettre à quelqu'un ou à un groupe d'aller assiéger avec des armes ou autre. Aujourd'hui, on doit réaffirmer l'autorité de l'État. Peu importe le mécanisme, on doit réaffirmer l'autorité de l'État sur toute l'étendue. Et les forces étrangères sont là pour ça. Ils n'ont aucune raison d'être au Mali s'ils ne soutiennent pas l'État malien à lutter contre les groupes terroristes, à recouvrir son territoire.
Merci beaucoup Abderrahmane, bonne journée à Bamako. On part pour Abidjan. Dima, bonjour.
Allô?
Oui Dima, vous m'entendez?
Oui, je vous entends très bien madame.
Alors la tension monte en Côte d'Ivoire à l'approche de la présidentielle du 31 octobre. Est-ce que vous redoutez ce scrutin et l'après-scrutin?
Le mot redouter est vraiment minime pour moi. Parce que vraiment, on ne sait même plus ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Le véritable problème, comme je vous ai dit hier, lorsque vous m'avez appelé, je vous ai dit que le véritable problème, c'est le troisième mandat.
C'est le fond du problème.
C'est le fond du problème. C'est le fond du problème. Si le président avait décidé de ne même pas se présenter, je vous assure que toutes ces choses-là ne n'auraient même pas arrivé.
Aujourd'hui, vous pensez que Alassane Ouattara, le seul moyen pour lui de calmer la situation serait de renoncer à ce troisième mandat ou à ce premier mandat de la Troisième République, comme il l'affirme?
Bon, moi je pense que actuellement, il n'est plus l'heure de renoncer. La seule institution habilitée à calmer le jeu en Côte d'Ivoire, c'est le Conseil constitutionnel. Moi, il serait préférable que le Conseil constitutionnel ajourne les élections et fait asseoir tout le monde sur la même table pour discuter. Et s'il en faut, retirer la candidature du président, la candidature de Henri Konabédié. Parce que ce sont eux qui mettent en péril la jeunesse ivoirienne. C'est eux. Si ce n'était pas eux, on n'aurait même pas arrivé à ce stade-là. On serait même pas à ce stade-là. Mais regardez aujourd'hui, c'est quelle génération ils sont en train de préparer. C'est la même chose. C'est comme s'ils sont en train de préparer encore un nouveau président Alassane Ouattara, un nouveau président Bédié, un nouveau président Gbagbo. Ils sont en train de préparer encore pour ces troubles-là qui vont aller d'éternité en éternité.
Merci. Mais Dima. Oui, merci. Allez-y, terminez votre phrase.
Voilà, quand la paix en Côte d'Ivoire. On ne sait même pas, nous sommes fatigués, la jeunesse ivoirienne. Moi, je vous ai dit hier que j'ai 30 ans. On nous sommes fatigués. C'est que cette tranche de génération-là, nous sommes fatigués de ces trois. Franchement, il faut que la France intervienne. Je n'ai même pas dit la communauté internationale, mais il faut que la France intervienne. Parce que c'est la France qui a une voix qui pèse en Côte d'Ivoire. C'est elle qui doit réagir pour pouvoir calmer les jeux en Côte d'Ivoire.
Merci beaucoup, Dima. On va partir pour Kinshasa, où nous attend, Dieu le veut, bonjour.
Bonjour Chantal.
Alors Dieu le veut, le président Tshisekedi doit s'adresser à la nation aujourd'hui sur fond de tension entre sa plateforme, le Front commun, sa plateforme Cap pour le changement et le FCC, le Front commun pour le Congo, majoritaire au Parlement de Joseph Kabila. Pour vous, Dieu le veut, la bataille pour 2023 a déjà commencé.
Effectivement Chantal, je voudrais ici, avant de commencer, je voudrais faire une analyse vraiment très logique. Qu'est-ce qui se passe en ce moment en RDC?
Brièvement, Dieu le veut, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps.
Ok. Brièvement, c'est qu'on est en campagne déjà anticipée. Et en ce moment, c'est le peuple qui en pâtit. Vous voyez un peu. Nous sommes en pleine campagne anticipée et il y a déjà des contestations anticipées également. Dans tous les cas de figure, au stade actuel de l'évolution du processus politique, en RDC, en tout cas, je pense que c'est le peuple qui en pâtit.
Parce que le problème à l'origine de cette tension, hein, il faut le rappeler, c'est la nomination par le président Tshisekedi de trois nouveaux juges à la Cour constitutionnelle. Cette Cour constitutionnelle qui a le pouvoir de valider ou d'invalider, par exemple, les candidatures à la prochaine présidentielle prévue en 2023.
Exactement, c'est ça. En fait, ce qui se passe maintenant, c'est que le président Tshisekedi de son côté ne cherche qu'à tirer le drap de son côté pour 2023. Et le FCC également cherche à récupérer le pouvoir. Et du coup, le peuple ne se retrouve pas dans ces affaires. Et moi, je pense que dans toutes ces choses, c'est la victoire du peuple qui a été volée et c'est le peuple qui doit se lever pour récupérer le pouvoir et que les choses puissent avancer. Parce qu'aujourd'hui, il y a des massacres qui continuent à l'Est. Aujourd'hui même, il y a des gens qui ont été tués la nuit près de Minembwe. Donc, c'est une distraction totale. C'est complètement une distraction, cette affaire des juges. Moi, je pense que le peuple congolais doit se lever et ouvrir les yeux face à des situations pareilles.
Merci beaucoup, Dieu le veut, de nous avoir appelés de Kinshasa. Merci à tous d'avoir participé à cette libre antenne préparée par Jessica Taïeb, Yasmine Boulan, Quentin Ferral, Rémi Bujol et Audrey Taïeb.